France Inter, franceinter.com.
La bataille de Fort Alamo. Jamais je ne me rendrai. Je suis déterminé à résister autant que possible et à mourir comme un soldat. La victoire ou la mort. William Travis, commandant de Fort Alamo, le 24 février 1836. ans d'histoire. À l'aube du 23 février 1836, un cavalier arrivait au grand galop dans la petite ville texane de San Antonio. À quelques kilomètres au sud, il avait vu, disait-il, l'avant-garde d'une armée commandée par le président mexicain Antonio López de Santa Anna. Surnommé le Napoléon de l'Ouest, Santa Anna avait décidé d'écraser la révolte du Texas, qui était alors une province du Mexique. Après avoir franchi le Rio Grande, son armée se dirigeait à marche forcée vers San Antonio, où se trouvait une poignée de volontaires bien décidés à défendre la ville. Retranchés dans une ancienne mission franciscaine transformée en fort, ils avaient à leur tête un homme de 26 ans, William Barrett Travis, qui quelques jours plus tôt avait remplacé le commandement de ce fort, dont le nom allait entrer dans l'histoire.
À sa fondation, il y a 100 ans, c'était une mission. Les Bejaneros l'ont baptisé Alamo, d'après Alamo de Paras, une unité de cavalerie espagnole arrivée il y a 30 ans. Comme vous le voyez, il n'a pas été conçu dans un but militaire.
Il est pourtant armé.
Il a plus de canons que tous les forts à l'ouest du Mississippi. Ce fort est la seule chose qui protège nos campements de l'armée de Santa Anna. Si on perd Alamo, on perd le Texas. Je vous laisse le commandement. Je sais que vous ne vouliez pas de cette affectation. Commander un fort n'est pas l'idéal d'un lieutenant de cavalerie.
Je le défendrai jusqu'à la mort, monsieur.
C'était le 11 février 1836, William Travis prenant le commandement d'un fort dont tous les Américains connaissent le nom depuis la bataille qui s'y est déroulée il y a 172 ans. Une bataille racontée dans le livre de mon invité d'aujourd'hui, Farid Hammer, bonjour.
Bonjour.
Alors, la victoire ou la mort, c'est le titre de votre livre qui vient de sortir chez Larousse, Les derniers jours de Fort Alamo, dont la chute est à l'origine de la naissance d'un des États les plus importants des États-Unis, le Texas, qui en 1836, au moment de la bataille, était encore une province du Mexique.
Oui, tout à fait. Le Texas, à cette époque, est une province rattachée à la Fédération mexicaine. Je rappelle pour mémoire que le Mexique a conquis son indépendance en 1821, à l'issue d'une guerre particulièrement meurtrière contre la couronne espagnole. Mais il faut attendre 1824 pour que le Mexique devienne une république fédérale et se dote donc d'une constitution d'ailleurs assez calquée sur le modèle américain.
Alors le Texas fait partie du Mexique, c'est pas une province très importante du Mexique, il y a quelques villes, il y a San Antonio où va se dérouler cette bataille puisque
tout
c'est là que se trouve le Fort Alamo et surtout qui est peuplé par un nombre de plus en plus grand, non pas d'Espagnols venus du Mexique ou de Mexicains, mais d'Américains venus des États-Unis, car en 1821, lorsque cette indépendance du Mexique est proclamée, ce pays ouvre le Texas à la colonisation de ce qu'ils appellent les Anglos, c'est-à-dire des Américains venus des États-Unis.
Oui, au lendemain de l'indépendance du Mexique, en effet, les colons américains affluent littéralement sur le Texas. Si bien qu'au moment de prendre les armes, en 1835, ils forment les trois quarts de la population. Ces colons ont été invités
et
par le gouvernement mexicain à partir donc de 1821 pour peupler un territoire immense où très peu de Mexicains voulaient s'établir. Peu de Mexicains voulaient s'établir au nord du Rio Grande.
Alors il s'agissait de mettre en valeur justement ce territoire du Texas, c'est les Mexicains qui le souhaitent eux-mêmes. D'ailleurs, tous les noms des héros de cette bataille de Fort Alamo proviennent pour la plupart d'entre eux des États-Unis. Il y a Travis qui vient de l'Alabama, qui commande le fort à ce moment-là.
Tout à fait. William Barrett Travis est un jeune avocat originaire de l'Alabama. Qui a abandonné femmes et enfants pour refaire sa vie au Texas. Alors, c'est un personnage, bien entendu, haut en couleur, un dandy orgueilleux, ambitieux, un peu prétentieux et plein d'un héroïsme romantique. Mais il n'y a pas que lui.
Alors, il y a lui, il y a également, alors, ultra célèbre. Déjà, il est connu avant Fort Alamo. D'ailleurs, il va mourir à Fort Alamo. Mais il est très célèbre. On a fait beaucoup de films, d'ailleurs, sur lui. Il y a un trappeur, un chasseur d'ours célèbre qui est Davy Crockett.
Tout à fait,
qui vient du Tennessee, lui.
Tout à fait, on a Davy Crockett, bien sûr, l'un des Américains les plus populaires de sa génération. Donc Davy Crockett, c'est le célèbre chasseur d'ours du Tennessee. Mais pas seulement, beaucoup de gens oublient aujourd'hui qu'il a jadis représenté les intérêts du Tennessee à Washington. Et il arrive au Texas donc en janvier 1836 et évidemment, il ne tarde pas à se jeter dans le feu de l'action aux côtés des rebelles.
Autre nom célèbre, Jim Bowie aussi.
Tout à fait. Jim Bowie, lui, tient d'un autre style que Travis parce que Bowie et Travis se partagent le commandement de Fort Alamo. Jim Bowie, lui, c'est un aventurier. Certaines personnes diront qu'il est sans foi ni loi. Toujours est-il que c'est un duelliste
qui vient de Louisiane, oui.
Émérite, tout à fait, qui a fait fortune dans la spéculation foncière. C'est un combattant d'Indiens chevronné. Et donc, il a fait fortune donc, dans la spéculation foncière, souvent d'ailleurs en recourant à des procédés frauduleux.
Il y en a deux aussi qui n'ont pas participé à la bataille de Fort Alamo, Farid Hammer, vous le rappelez, mais qui ont un rôle important. Celui qui a donné son nom à une des plus importantes villes du Texas, sinon la plus importante, Sam Houston. Hein, lui qui était, qui sera le chef, le commandant en chef de l'armée du Texas.
Tout à fait, c'est un personnage très important, même s'il ne se trouve pas à Fort Alamo au moment du siège. Sam Houston... il est originaire du Tennessee, comme Davy Crockett. Il a été gouverneur du Tennessee. C'est un ancien combattant d'Indiens qui était très proche du président américain de l'époque, Andrew Jackson. Et lui aussi, comme Bowie, s'est lancé dans la spéculation foncière. Et il a réussi, grâce à son influence, à se faire nommer général en chef des troupes texanes.
Et puis enfin, un homme qui lui non plus n'était pas à Fort Alamo, mais qui est à l'origine de la volonté d'indépendance du Texas, qui a donné lui aussi son nom d'ailleurs à la capitale du Texas, c'est Stephen Austin.
Tout à fait, Stephen Austin est l'artisan numéro un de l'indépendance du Texas. Stephen Austin, c'est à l'origine le principal agent d'émigration du Texas. C'est lui qui a fait venir le premier noyau de peuplement anglo-américain au Texas. Et en septembre 1835, donc juste avant que les rebelles ne prennent les armes, il vient tout juste de sortir de prison, d'où l'avaient jeté les autorités mexicaines. Alors, lui, c'est un partisan acharné de l'indépendance. Lui qui avait jadis prôné le compromis avec les autorités. Alors, pour Austin, désormais, les dés sont jetés. Les colons du Texas... n'ont plus à obéir au gouvernement mexicain, qui est tombé sous la coupe des despotes militaires et de Antonio López de Santa Anna en particulier.
Alors donc, justement, cette indépendance, on est sur le point de la proclamer lorsque va se déclencher cette bataille de Fort Alamo, où Davy Crockett arrive avec ses volontaires du Tennessee le 10 février 1836.
Monsieur, c'est vous, Davy Crockett ?
C'est moi, oui.
Je suis le colonel Travis, commandant de la garnison.
Allons, débitez votre boniment, Travis.
Je désire avoir la permission de faire un discours à vos hommes.
Ils en ont déjà beaucoup avalé pendant ma campagne électorale. De quoi allez-vous leur parler ?
L'indépendance et la liberté.
Oh, il est inutile de leur en parler. Ces hommes ont été élevés dans cet idéal.
Mais je dois leur expliquer pourquoi je leur demande de se battre contre Santa Anna.
De quoi leur parlerez-vous ? D'instaurer la République du Texas. J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas, Travis ? République. C'est un nom qui sonne très bien.
Je sais aussi que vous êtes venu au Texas pour vous battre avec nous.
Ne le dites pas aux gars du Tennessee. Ils croient qu'on est venu ici chasser et se saouler.
In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to that roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. Back in 1836,
Houston said to Travis, get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may ne'er see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay.
Marty Robbins, La Ballade d'Alamo, une chanson écrite en l'honneur des défenseurs de ce fort, qui à l'origine, on l'a entendu au début dans un extrait de film, n'était pas du tout un fort, c'était pas destiné
absolument
à être
pas
une forteresse.
Absolument
Farid Hammer.
Absolument pas. Alamo, c'est à l'origine une vieille mission franciscaine fondée en 1718.
Donc, plus d'un siècle.
L'idée de départ, c'était de christianiser les Indiens des environs. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est autour d'elle, autour de cette mission, qu'on a bâti la ville de San Antonio.
San Antonio, oui.
Alors, au fil du temps, Alamo est tombé en ruine. La cavalerie mexicaine s'en est vaguement servie comme caserne. Alors, Alamo, comme vous l'avez dit, rien ne la prédispose à soutenir un siège. Elle se présente, cette mission, sous la forme d'un ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour rectangulaire, environ un demi-hectare, et c'est un ensemble trop vaste pour être défendu par à peine 200 volontaires texans. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est cette mission a-t-elle une quelconque valeur stratégique ?
Oui, parce que cette révolte de 1835, évidemment, elle provoque la colère du président Santa Anna, d'ailleurs à tel point que c'est lui qui va prendre la tête d'une armée pour envahir le Texas, il franchit le Rio Grande, et il attaque la première obstacle qu'il a en face de lui, c'est ce fort défendu à peine par 200 personnes. Mais vous dites vous-même que ça n'a aucun intérêt stratégique. Pourquoi donc s'en prend-il à Fort Alamo ?
Parce que le général mexicain Antonio López de Santa Anna, qui, je le rappelle, règne en dictateur à Mexico depuis plus de 2 ans alors, veut une victoire. Il veut une victoire. Et dès qu'il voit cette poignée de rebelles enfermés dans une vieille mission en ruine, il se dit c'est une victoire facile. En 2-3 jours,
prestige, au fond.
L'affaire est réglée. Il faut mettre en bonne condition ses troupes. Parce que la route depuis Mexico jusqu'à San Antonio a été longue et il s'est mis à dos beaucoup de ses soldats.
Alors que le colonel Travis, lui, dit, il parle de la clé du Texas, hein, il est prêt
absolument
à défendre cette ville. Santa Anna, c'est un peu une brute. Hein. On dit qu'il considérait qu'il méprisait autant ses adversaires texans, hein, qui étaient sur le point de proclamer leur indépendance, que ses propres soldats. Soit qu'il les considérait comme des poulets, disait-il.
C'est ça, c'est les propos qu'il tient donc la veille de l'assaut final, lorsque ses subordonnés tentent de réfréner ses ardeurs. Et,
En tout cas, ce Santa Anna arrive justement à San Antonio et devant Fort Alamo le 23 février 1836.
Il se passe quelque chose au village.
Teniente, cumpla con sus órdenes. Sí, coronel.
Quartier général du généralissimo Antonio López de Santa Anna, le maître incontesté du Mexique, au chef des rebelles qui s'est arrogé le droit de commander les hommes qui occupent la mission, nous portons ceci à votre connaissance. La province du Mexique, connue sous le nom de Texas, s'est ouvertement et traîtreusement révoltée contre le pouvoir du généralissimo Santa Anna. Le généralissimo, dans sa grande bonté, donne l'ordre suivant. Tous les occupants de la mission doivent partir sur le champ en abandonnant leurs armes et leurs munitions sur place. Si cet ordre n'est pas promptement exécuté, le généralissimo se verra contraint de prendre la mission d'assaut. Il ne sera fait aucun quartier. Signé ?
Et c'était la réponse de Travis à l'ultimatum de Santa Anna, le premier coup de feu, coup de canon plutôt, d'une bataille qui allait durer 13 jours. En fait, 13 jours de siège pendant lesquels ces 200 défenseurs ont tenu bon. Quelle était l'importance pour eux ? On a vu que pour Santa Anna, c'était uniquement la gloire qu'ils recherchaient. Mais pour ces défenseurs, pourquoi ont-ils tenu aussi longtemps face à une armée 10 fois supérieure à ce qu'ils étaient ?
Alors pour les assiégés, en particulier pour Travis, qui l'a dit et répété, Fort Alamo, c'est la clé du Texas. Pour les assiégés, Fort Alamo, c'est un avant-poste. Position stratégique capitale. Fort Alamo commande San Antonio. Il est bien armé, c'est le bastion le mieux armé à l'ouest du Mississippi. Et San Antonio, c'est la plus grande ville du Texas. Pour les assiégés, Alamo mérite d'être défendu. Puisqu'en fixant l'armée ennemie, se disent-ils, une résistance prolongée peut permettre à Houston, qui reste le commandant en chef des troupes texanes, d'organiser la rébellion sur une plus grande échelle et de contre-attaquer avant que les Mexicains ne s'enfoncent au cœur des colonies, ne s'en prennent à leur famille.
Alors ces assiégés, on en a cité quelques-uns, les plus célèbres, Travis, Bowie, Bowie d'ailleurs qui tombe malade dès le deuxième jour de la bataille, Davy Crockett. Il y a aussi, vous le rappelez, Farid Hammer, des Mexicains volontaires qui, eux, décident de lutter contre l'armée de Santa Anna.
Oui, tout à fait. Ils sont une poignée. Ils sont entre 10 et 20 sous le commandement du capitaine Juan Seguin, qui est issu d'une famille influente de San Antonio. Alors, ce sont essentiellement des amis de Jim Bowie, puisque Jim Bowie, bon, je n'ai pas pu en parler tout à l'heure, avait épousé la fille d'un notable de San Antonio, et tout le monde connaissait bien Jim Bowie. Alors, cette poignée de sympathisants mexicains, on les appelle les Tejanos. Ils sont nés au Texas. Et ce sont également des adversaires acharnés de la politique de centralisation de Santa Anna.
Il y avait aussi, alors extraordinaire, j'ignorais totalement avant de vous lire, Farid Hammer, il y avait un Français qui est un vétéran des guerres napoléoniennes.
Tout à fait, il est né dans les Ardennes à la fin en 1785, si mes souvenirs sont exacts. Il s'appelle Louis Rose. Alors c'est un ancien grognard des armées napoléoniennes qui a fait campagne en Espagne, au Portugal, à Naples également, donc qui est sorti du rang. Hein. Il a réussi à être décoré de la Légion d'honneur pendant la campagne de France. Il n'a cessé de s'attirer les éloges de sa hiérarchie et on ne sait trop comment il est passé en Amérique dans les années 1820. Et il s'est trouvé lié à la bande d'aventuriers qui gravitait autour de Jim Bowie.
Et le voilà,
Jim Bowie l'a recruté.
Et le voilà donc à Fort Alamo. Il y avait aussi des non-combattants, il y a même des femmes qui étaient présentes dans le fort, Farid Hammer.
Tout à fait, ils étaient à peu près une vingtaine donc, de non-combattants, des femmes, comme Susanna Dickinson par exemple, qui est l'épouse d'un officier d'artillerie, des enfants et quelques esclaves noirs, notamment un certain Joe, qui était l'esclave de Travis et qui survivra.
Enfin, il n'y a pas eu, nous le verrons, beaucoup de survivants. Alors, évidemment, Travis, vous l'avez dit, Farid Hammer, bien sûr, il sait très bien qu'il ne pourra pas indéfiniment défendre ce fort, tenir le siège, et il lance à plusieurs reprises, en envoyant, au risque de leur vie d'ailleurs, des émissaires pour porter des messages demandant des renforts à Houston. On ne sait pas très bien où est le général, le commandant en chef de l'armée texane, Houston, et aucune réponse. Il y aura à peine 32 volontaires qui arriveront à un moment donné, peu de temps avant la chute de Fort Alamo, qui traverseront les lignes mexicaines. C'est tout ce qu'il aura comme renfort.
Tout à fait, il faut rappeler que les Texans luttent à 1 contre 10, quand même, c'est pas rien. Le siège dure 13 jours. Et pendant ces jours d'angoisse, ces jours de siège, les défenseurs de Fort Alamo résistent avec l'énergie du désespoir. Il y a des bombardements continuels. Et ces assiégés vivent avec l'espoir d'être secourus, bien évidemment. Travis, comme vous venez de le dire, envoie plusieurs courriers aux bourgades voisines pour appeler des renforts. Mais seuls 32 miliciens, qui viennent d'une petite bourgade des alentours qui s'appelle Gonzales, donc cette trentaine de miliciens parvient, non sans mal d'ailleurs, vers le milieu du siège, à s'engouffrer dans Fort Alamo.
En fait, Travis comprend assez vite que ces renforts ne viendront jamais. Il propose même d'ailleurs aux volontaires qui sont présents dans le fort de s'en aller.
Tout à fait. Cette scène assez connue aurait eu lieu le 5 mars 1836.
La veille de la chute du fort, oui.
Lorsque Travis comprend que l'assaut final est imminent, puisqu'il voit aux alentours les troupes mexicaines se déployer. Il sait que Santa Anna vient de recevoir de nouvelles troupes fraîches, donc les troupes fraîches qui lui étaient nécessaires pour lancer l'assaut final. Alors, Travis aurait rassemblé ses hommes devant la célèbre chapelle, qui se trouve à l'angle sud-est du fort, donc une position qui était assignée à Davy Crockett et à ses volontaires du Tennessee. Il rassemble ses hommes, il les harangue et il aurait tracé une ligne sur le sol à l'aide de son épée pour leur donner le choix de rester, donc de périr certainement à ses côtés pour la cause du Texas ou de s'en aller.
Il y en a un seul qui est parti.
D'après les sources, seul le Louis Rose aurait pris le large.
Quelle honte. En tout cas, effectivement, on est à la veille de l'assaut que coordonne Santa Anna, qui est exaspéré par la résistance de ce fort, de ces 200 volontaires qui sont en face de plus de 2000 de ses soldats. Et la veille de l'attaque, eh bien, il réunit son état-major et demande à ses généraux de partir le lendemain à l'assaut de Fort Alamo.
Général Cross, te dirigera la première carga ahí.
Général Cos, vous mènerez la première attaque ici. Le mur nord est vulnérable.
Colonel Duque,
vous suivrez par le nord-est.
Romero,
par l'est.
Morales,
le sud.
Nuestros cañones de 5 kilos.
Notre canon de 12 arrive demain. Pourquoi sacrifier nos soldats en essayant de prendre un mur qu'on peut démolir ?
Général Castrillon,
que sont des vies de soldats ? Rien de plus que des poulets. Et s'ils se rendent ? Ne faites pas de prisonniers. Sans verser le sang ou les larmes, point de gloire.
Sin lágrimas, no hay gloria.
¡A la carga!
¡Adelante! ¡Adelante!
Et la gloire, entre guillemets, de Santa Anna, eh bien, ce sera le 6 mars 1836, donc après 13 jours de siège, commençait la véritable bataille de Fort Alamo. Elle a duré très peu de temps, je crois, Farid Hammer, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas tenir devant le nombre des assaillants. Et on l'a entendu, la bataille était d'autant plus violente, vous le rappelez, que pas de quartier. Il n'était pas question pour Santa Anna de faire des prisonniers.
Oui, Santa Anna avait donné l'ordre à ses hommes de déployer la bannière rouge.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'un avertissement donc aux assiégés qu'il ne leur sera fait aucun quartier.
Il ne les considérait pas, il faut le rappeler, comme des soldats, mais comme des rebelles.
Santa Anna, comme vous l'avez dit, est excédée par la résistance opiniâtre, insolente, prolongée que lui offre
les Travis. Oui.
Il n'en peut plus. Ce qu'il veut, c'est poursuivre la campagne et défaire Houston, parce que c'est lui, c'est Houston, le général en chef texan. C'est lui, c'est une victoire sur Houston
qu'il veut,
ouais. Voilà, qui scellera le sort du Texas. Et pour lui, comme vous l'avez dit, pas de quartier. Les Texans doivent payer de leur vie le prix de leur trahison. Ce sont des pirates, des flibustiers. Ils doivent trépasser.
Ils vont tous mourir d'ailleurs, être tués les uns après les autres. Travis d'une balle dans la tête dès le début de la bataille.
Oui, dès le début. Parce que, en fait,
Il y en a un, on l'a dit, qui était malade, il était dans son lit, c'était Bowie.
Oui, Jim Bowie, qui, on ne sait pas trop de quoi il souffre exactement, probablement une fièvre typhoïde. Donc dès le deuxième jour du siège, il était consigné dans sa chambre, à côté de l'entrée du mur sud, et il a été transpercé à coups de baïonnette et achevé sur son lit.
Davy Crockett, on n'a jamais très bien su comment il est mort. Probablement, vous l'avez dit, ils s'étaient tous réfugiés dans l'église, qui est aujourd'hui le monument que l'on voit à San Antonio, dans l'église du fort.
Oui, on sait en tout cas pour sûr que Davy Crockett, que la position de Davy Crockett était cette espèce de palissade établie juste à côté de l'église. Et alors, selon certaines sources, si vous prenez la version Walt Disney, par exemple, Davy Crockett aurait tué une vingtaine de Mexicains avec son couteau, etc. Mais d'après certaines sources, alors là je prends en considération les témoignages d'officiers mexicains en particulier, Davy Crockett aurait fait partie de ces 5 ou 6 Texans blessés qui auraient été faits prisonniers à l'issue d'un sanglant combat au corps à corps dans l'église, dans la chapelle. Et le général Castrillon, qui était le principal adjoint de Santa Anna, les aurait amenés devant Santa Anna, et Santa Anna les aurait exécuté sur le champ.
En fait, il n'y a pratiquement eu aucun survivant épargné par Santa Anna, sinon l'esclave noir, Joe, vous en avez parlé, Travis, et également Susanna Dickinson, qui était la femme de la capitaine, et son bébé Angelina, qui rejoignent l'armée de Sam Houston, qui quelques jours plus tôt avait appris le siège d'Alamo.
Hier soir, je vous ai lu un message du colonel Fanning disant qu'il ne gagnerait jamais l'Alamo à temps. Et il n'y a rien à faire. Demain, lorsque vos recrues viendront se plaindre et pleurnicher, vous leur direz ceci. Qu'en cet instant, 197 de leurs camarades, de leurs voisins, tous du Texas eux aussi, livrent un combat désespéré dans une petite église en ruine sur le Rio Bravo pour gagner un temps précieux au prix de leur sang. Que jamais le Texas ne l'oublie, messieurs.
Let the old men tell the story, let the legend grow and grow of the 13 days of glory at the siege of Alamo.
Remember Alamo, le Texas n'a jamais oublié Alamo. Il a même profité d'ailleurs de cette bataille pour proclamer son indépendance. Larry Dahmer, au fond, cette défaite militaire a été une victoire politique.
En effet, la déclaration d'indépendance du Texas a été faite le 2 mars 1836.
4 jours avant la chute de la,
voilà,
de la
pendant
ville,
que,
enfin, du fort.
Pendant que les assiégés soutenaient le siège. Et Houston, après la bataille, donc, a effectivement eu le temps de rassembler les troupes et va infliger la défaite finale à Santa Ana le 21 avril 1836 sur les bords de la rivière San Jacinto. Mmh. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les pertes mexicaines, pendant seulement une heure de combat à Fort Alamo, les Mexicains ont payé le prix fort.
Ouais.
600 morts et blessés, soit le tiers des effectifs engagés dans la bataille. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'en fixant l'armée de Santa Ana pendant 13 jours et en signant à blanc son armée, les assiégés, les compagnons de Davy Crockett et de Travis, ont semé dans la défaite la victoire future.
Au fond, c'est un mythe fondateur du Texas, du coup de l'histoire des États-Unis, car après son indépendance, 9 ans après, le Texas devenu indépendant et a rejoint les États des États-Unis, est devenu un État à part entière.
En 1845.
Houston est devenu gouverneur, d'ailleurs, du Texas. Très présent encore, vous le rappelez, dans la mémoire des Américains. C'est le monument historique, dites-vous, ce qui reste de Fort Alamo, monument historique le plus visité à l'ouest des États-Unis.
Oui, avec une moyenne d'environ 2 à 3 millions de visiteurs chaque année. C'est bien sûr le principal spot, le principal lieu, attraction touristique du Texas. Et aujourd'hui encore, il ne manque pas de faire battre les cœurs des Texans. Remember the Alamo, comme ils aiment souvent rappeler, ça fait partie de... C'est la grande geste historique du Texas. Et,
d'ailleurs, vous le dites aussi, tous les candidats à la présidence ne manquent pas de passer avant les élections à Fort Alamo, à San Antonio. Donc, c'est important. Je suppose que,
oui, que
Barack Obama
pour...
ou Hillary Clinton y sont ou ils vont y aller.
Que ce soit des candidats à la présidence, à des postes de sénateur, de gouverneur ou même de maire, ils savent bien qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour inspirer les sympathies. Du public.
Merci Farid Hammer et bravo. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que vous vous exprimiez à la radio. Pour en savoir plus sur Alamo, je recommande la lecture de votre livre, La victoire ou la mort, Les derniers jours de Fort Alamo, publié chez Larousse dans la collection L'histoire comme un roman. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Alamo de John Lee Hancock, édité en DVD par Touchstone Home Video, et Alamo de et avec John Wayne, un film très célèbre où John Wayne joue le rôle de Davy Crockett et qui est disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Benjamin de la Gâtinais, Eric Morin, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire avec Elisabeth Badinter, une femme de science au temps des Lumières, Madame du Châtelet.